Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, il y a une boîte à idées du côté de la librairie, à côté de l'accueil. Donc, si vous voulez faire des commentaires, des propositions pour d'éventuelles rencontres des nouvelles pensées de l'écologie l'année prochaine ou tout autre sujet d'intérêt collectif par rapport à ceux dont nous avons parlé depuis hier matin, vous pouvez le rédiger et le mettre dans la boîte là-bas. Merci de votre silence, qui est assez impressionnant. Et donc, nous parlons sauver la planète, manifestement. Le salut par les sciences et les techniques. Ah oui, c'est très le salut. Alors, comme en plus on est à l'abbaye de Cluny, c'est ça. On est là dans une modalité du salut. Alors, vous nous direz si c'est de ça dont il est question. Il y avait un point d'interrogation quand même. Il y a le salut par la science et la technique. Donc, écoutez, je ne vais pas passer des heures à vous présenter, sinon quand même pour dire que rapidement, la question scientifique, les questions de rapport à la science, c'est au cœur de l'histoire de l'écologie. Enfin, c'est vraiment un des courants de la sensibilité écologique, mais aussi de l'histoire de l'écologie, qui elle-même se définit en tant que science, définie, comme vous le savez, par M. Haeckel vers 1876, et qui est encore, la science de la relation des êtres vivants entre eux. Et puis, il y a eu... Par exemple, on vient de célébrer en quelque sorte le 50e anniversaire de Rachel Carson, qui est considéré à très juste titre parce que c'est un livre d'une importance extrême et aussi extrêmement bien écrit, ce qui est aussi important. C'est-à-dire que dans le même mouvement, elle exprimait une sensibilité à l'environnement qui est un des autres courants essentiels de l'écologie, mais une analyse scientifique extrêmement poussée sur les pesticides et le DDT, ce qu'on pouvait déjà en savoir. Et donc, c'est un regard de scientifique qui a déclenché le mouvement écologique dans les années 70. La question scientifique a toujours été au cœur de ces problématiques. Elle était en quelque sorte retombée avec la poussée de l'informatique depuis les années 80. Une sorte de traversée du désert pour la pensée écologique et le mouvement écologique même dans les années 90-2000. Et puis, depuis une quinzaine d'années, un renouveau de la critique de la technologie, à la fois parce que les effets de l'informatisation, mot générique, se font de plus en plus sentir, qu'il est clair aussi que le paradigme techno, que moi j'appelle technocapitalisme, ou le paradigme technosolutionniste, devient le paradigme du renouveau du capitalisme depuis une quinzaine d'années, avec les perspectives de développement de 5G, de l'intelligence artificielle, de la robotique, et même l'idée de la singularité 0.0, c'est-à-dire de la fusion de l'humanité et les machines, etc. Donc, renouveau de l'analyse technique dans un cadre général, dans un contexte d'évolution des systèmes économiques et politiques dans lequel nous sommes, et même d'un système de domination. Et cette introduction est en fait, j'ai le plaisir d'accueillir François Jarige, historien de l'environnement, qui fait partie avec d'autres de ce renouveau extrêmement roboratif, avec Christophe Bonneuil, avec Jean-Baptiste Fressoz et beaucoup d'autres. Et c'est une très bonne chose de nous faire redécouvrir que la question environnementale a aussi une histoire. Et donc, François Jarige publie de nombreux livres, de nombreuses recherches, et donc qui vient de sortir, merci Cédric, On arrête parfois le progrès. Alors, il nous expliquera peut-être de quoi il s'agit. Histoire et décroissance, à l'échappée. Et puis, Cédric Villani, alors qui est, vu notre niveau en mathématiques ici, assez bas, en tout cas le mien, le plaisir de la mathématique, c'est arrêté à bac plus 1, puis après je suis passé à autre chose, mais j'aimais beaucoup.
Donc, déjà, c'est pas mal.
Ah, mais oui, non, mais il y avait j'ai eu le sens de découvrir aussi la beauté idéale des mathématiques, mais après, bon, on atteint aussi sa limite.
On aime entendre parler de beauté en mathématiques.
Absolument. Et donc, vous l'avez deviné ou pas, Cédric Villani est médaille Fields de mathématiques. Mais depuis quelques années, il est redescendu à notre niveau et nous parle de choses que nous pouvons comprendre. En fait, c'est qu'on verra tout à l'heure, rien n'est garanti. Et donc, après un parcours, il faut bien le dire, hasardeux, du côté de...
Chaotique.
En marche et promoteur de la voiture individuelle, de la voiture électrique, de la 5G et surtout pas de la marche à pied, c'est intéressant, vient à la question politique et surtout par la question écologique. Et donc, notamment, outre le fait que vous êtes quasiment prix Nobel de mathématiques, médaille Fields pour être plus précis, Vous avez aussi fait un rapport intéressant et dont on va discuter sur l'intelligence artificielle il y a quelques années, qui sera peut-être votre point d'entrée dans le sujet. Donc, ce qu'on va faire, on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, de n'avoir que deux intervenants. Alors, je leur ai demandé à l'un et à l'autre, ils vont parler 12 minutes. J'ai même... Alors ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle, Cédric Villani, c'est un minuteur. C'est-à-dire que si j'avais... ça fera partie de la discussion, éventuellement, mais chacun parlera 12 minutes. Et puis après, vous converserez tous les deux, non pas au coin du feu de bois, mais on essaiera de discuter, de converser. Vous discuterez, vous réagirez l'un à l'autre et aux idées. Peut-être serez-vous d'accord, peut-être pas. Et quand même, on gardera une bonne demi-heure pour que vous aussi, vous participiez à la conversation, chacun et chacune étant dans des termes concis et denses pour pouvoir s'écouter au maximum et se transmettre les idées. Donc François Jarige, pour l'instant, moi je suis dans les temps, tu as 12 minutes.
Je vais essayer, oui, c'est bon, je vais essayer d'être dans les temps, donc je viens d'apprendre il y a 2 minutes que j'avais 12 minutes. J'avais prévu de vous dire des choses, évidemment c'est difficile ce genre d'exercice, hein. Il ne faut pas dire trop de généralité, il faut être positif, il faut donner des solutions pour sortir d'un problème où il n'y a pas de solution. Et en même temps, je suis historien, donc je suis là pour vous parler un peu d'histoire. Donc je vais essayer de faire tout ça en 12 minutes. Donc vous verrez le côté caricatural de l'exercice, mais c'est inéluctable. Et je vais lancer quelques idées. J'avais envie d'abord de commencer en rappelant que cette question... Donc on est là pour parler de la question de la technique. Le mot technosolutionniste a été utilisé par Hervé Kempf. Il a été utilisé hier dans le débat. Notre ami économiste ne comprenait pas le sens de ce mot. Jean-Baptiste Fressoz a utilisé ce mot à plusieurs reprises. Donc je voulais revenir sur cette question du technosolutionnisme, qui est, je pense, un enjeu majeur des pensées et de la question écologique, sans doute un des non-dits, un des tabous, une des questions sur lesquelles il est le plus difficile de se positionner quand on a une organisation politique écologique, puisque si vous commencez à critiquer la modernité technologique, sachant que tout cela est noyé dans des catégories qui n'ont aucun sens, les technophobes contre les technophiles, donc le débat est immédiatement piégé, donc je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il est particulièrement important de le réouvrir. Donc je voulais développer 3 points, qui chacun mériterait 1 heure. Donc je vais essayer de développer 3 points, ce qui était d'abord d'où vient cette question du technosolutionnisme. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Le salut par la science et la technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous paraît une sorte d'évidence naturelle, mais en fait c'est très récent. Donc premier point, d'où vient cet imaginaire technosolutionniste? À quel moment il émerge dans nos représentations collectives et à quel moment il devient une force qui modèle notre vision du monde? Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que la solution technique pose problème? On pourrait se dire, pourquoi? Bien sûr, il y a des techniques, ça résout des problèmes, donc c'est une solution technique. Pourquoi est-ce que ça bloque les débat écologique et pourquoi ça pose problème? Deuxième point. Et troisième point, puisqu'il faut être positif et ouvrir sur des terrains concrets, je voulais lancer une série de pistes, non pas de solutions, ça serait beaucoup trop prétentieux, mais en tout cas de leviers d'action qui existent déjà dans la société et qui sont à l'œuvre. Donc c'est ces 3 points sur lesquels je voulais revenir, donc c'est n'importe quoi. Le premier point, c'est donc le technosolutionnisme, d'où ça vient? Je pense que ça a une histoire assez récente. Ça a une histoire assez récente. Et c'est lié évidemment au capitalisme industriel. Alors on peut le dater. Donc j'y vais à la hache. Mais on peut le dater. Et il est exactement contemporain de ce qu'on appelle l'anthropocène ou le capitalocène, si on veut être plus sensible aux inégalités du fonctionnement du système économique. L'anthropocène, donc ce moment où l'homme devient une force géologique, où le fait de brûler des énergies fossiles commence à modifier les équilibres globaux et déséquilibrer le climat. Tout ça, on le date de la fin du 18e siècle, au moment où, justement, apparaît la première innovation technique miraculeuse, avec le premier inventeur qui va être célébré comme un héros de l'invention, comme une figure héroïque de l'invention technique, c'est James Watt. James Watt, c'est celui qui invente un dispositif technique, un convertisseur énergétique, qui n'invente pas le charbon et l'utilisation du charbon pour produire de la force, mais qui invente une technique qui permet d'utiliser le charbon dans toute une série de secteurs d'activité. Donc entre 1780 et globalement 1830, tout à l'heure l'année 1830 a été évoquée parce que c'est le moment d'apparition des premiers réseaux ferroviaires en Europe occidentale, et donc de l'adaptation de cette invention de James Watt pour la mobilité. Entre 1870-80 et entre 1770 et 1830 globalement, on invente la société thermo-industrielle, l'anthropocène. Certes, avant on parlait de révolution industrielle, il existe plein de mots, il ne faut pas toujours trop s'attacher aux mots. Chaque mot véhicule évidemment une certaine idéologie aussi, un certain projet politique. En tout cas, c'est un moment de bascule. C'est un moment de bascule et c'est précisément le moment où on va commencer à avoir confiance dans la solution technique pour résoudre les problèmes écologiques. Il ne faut pas oublier que À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe occidentale est plongée dans une crise écologique et toute une série de barrières environnementales qui freinent la poursuite de l'expansion démographique, de la croissance urbaine. Il n'y a plus de forêt, il y a une suroccupation des terres, donc on a besoin d'alléger la pression sur le sol et on a besoin de trouver des substituts ou en tout cas de trouver d'autres ressources à exploiter que le bois, qui était à la fois le combustible et le matériau de base des sociétés anciennes. Et donc, la machine à vapeur va être présentée comme la solution technique qui va permettre, grâce à la providence divine qui a enfoui dans le sous-sol le charbon, c'est comme ça que c'était présenté dans la théologie naturelle anglaise du 19e siècle, les Anglais avaient plein de charbon, c'est eux qui ont eu le génie d'inventer la machine à vapeur, et donc c'est eux qui ont les premiers inventé une innovation technique miraculeuse qui allait lever les contraintes environnementales qui pesaient sur la poursuite des sociétés. Et donc, évidemment, comme l'a très bien expliqué Jean-Baptiste, on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'une transition du bois au charbon. L'invention de la machine à vapeur a juste permis de consommer du charbon en plus de la consommation de bois. Et c'est ça, en fait, qui va se passer durant les 200 ans qui suivent. Chaque révolution technologique, chaque solution technique à un blocage environnemental, à une pénurie de ressources, on va voir apparaître une nouvelle technologie présentée comme miraculeuse qui résout les problèmes, mais qui en fait déplace les problèmes. Le moteur à explosion n'a pas remplacé la machine à vapeur, il a permis d'exploiter le pétrole en plus de l'exploitation du charbon. L'électrification n'a pas résolu le problème du charbon, c'est juste un vecteur énergétique qui permet de produire du charbon dans des lieux plus éloignés, donc en rendant les pollutions, les nuisances du charbon un peu plus invisibles. Donc là, je le dis évidemment très rapidement, mais donc les solutions techniques sont des manières d'exploiter de nouvelles formes de ressources en développant des convertisseurs, notamment énergétiques, qui permettent de développer des ressources, d'utiliser des ressources pour se déplacer, pour se chauffer, pour produire, qui n'étaient pas utilisables parce qu'on ne disposait pas des techniques pour exploiter ces ressources. Donc ça, et je pense que c'est tout à fait fondamental, c'est-à-dire qu'il se passe un moment où l'économie politique va considérer que la solution technique est la solution à tous les problèmes environnementaux. Vous avez une barrière énergétique, une barrière environnementale, une contraction des ressources, et bien on va trouver la bonne solution qui va permettre de lever ces blocages, de lever ces freins, en permettant d'exploiter de nouvelles ressources, en permettant d'ajouter finalement des ressources aux précédentes. Et c'est ce qui se passe au 19e siècle. Et c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît la figure démiurgique de l'inventeur, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le modèle du progrès technique. N'oubliez jamais qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de solutionnisme technologique au XVIIIe siècle. On ne pense pas qu'on va résoudre les problèmes de la société et de l'environnement avec des solutions techniques. Et d'ailleurs, le mot technique n'existe quasiment pas, il n'est pas employé. Le technique, c'est faire quelque chose avec habileté et soin. Si vous ouvrez un dictionnaire du XVIIIe siècle, vous trouverez à technique l'art de se remémorer un poème ou un chant. Donc c'est la savoir-faire, une habileté pour dans le domaine cognitif, dans le domaine matériel, etc. Le 19e siècle va réduire le progrès au progrès technique, en fait, c'est ça qui va se passer. Et on va identifier le progrès, ça a une plus vieille histoire, le progrès c'est le progrès des civilisations, le progrès des mœurs, le progrès des échanges, plein de choses. Voilà, ça j'en suis à 5 minutes ou il me reste 5 minutes ? Bon, donc je pense qu'il se met en place à la fois sur le plan, et tout ça évidemment est contemporain de l'invention du capitalisme industriel. On passe du capitalisme marchand, le profit venait de l'intensification des échanges, à partir de la fin du 18e siècle, le profit vient de la transformation de la nature même du travail, de l'accroissement de la productivité par des nouveaux systèmes techniques. C'est le passage du capitalisme, c'est l'addition au capitalisme commercial du capitalisme industriel qui se met en place. Donc, Ça va être majeur au cours du 19e siècle. On va voir se mettre en place un discours, une confiance nouvelle dans le progrès technique qui semble validé par l'histoire. Puisque dans les années 60, on a un mur écologique, une crise écologique. La première taxe carbone, c'est en 1873 en Angleterre, lorsque le gouvernement veut mettre en place une taxe pour limiter la consommation de charbon dont on craint la pénurie et l'effondrement dans un contexte où l'Angleterre dépend intégralement du charbon. Jusqu'en 1850, les Anglais consomment et produisent la moitié du charbon mondial. N'oubliez pas aussi qu'au 19e siècle, en réalité, avant les années 1860-70, les gens ne veulent pas du charbon. Il y a une résistance de la société, et même en France. En France, on n'a pas de charbon. Et donc, on cherche toutes les solutions pour ne pas utiliser le charbon. D'ailleurs, la voie française de l'industrialisation, elle ne repose pas sur les énergies fossiles, elle repose sur l'intensification de la mobilisation du travail humain, du travail animal et de l'énergie hydraulique qui domine dans le mix en termes d'énergie industrielle jusque dans les années 1860-70. Donc, et tous les acteurs, beaucoup d'acteurs font tout pour ne pas utiliser les nouveaux convertisseurs fossiles parce que ça coûte cher, parce que ça explose, parce que le rendement est pourri et parce qu'en plus, ça rend dépendant de techniciens de compétences extérieures là où l'équipement technique des mondes et métiers anciens était fondé justement sur la quête d'autonomie et sur la quête de la réparabilité sur place des dispositifs. Donc là, on va avoir un basculement à partir du... Donc, cette crise énergétique des années 60... Elle inquiète. On craint qu'il n'y ait plus de charbon. Par ailleurs, énorme inquiétude sur la pollution des villes qui se développe à cette époque-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme solution ? Alors, la taxe carbone, ça ne marche pas parce que ça entraîne des contestations sociales de la part des classes populaires britanniques. Et donc, on va développer la solution technologique. Deux solutions technologiques. Donc, le solutionnisme technologique s'enracine de plus en plus à partir de ce moment-là. Notamment, on va mettre au point d'autres convertisseurs. C'est l'époque où on invente on développe les technologies solaires. Les premières machines à vapeur solaires, c'est 1870. Et c'était une réponse à l'annonce de la pénurie de charbon. Bon, on pourrait en parler longuement de ça. Deuxièmement, on va développer le solutionnisme technologique, c'est-à-dire les technologies de dépollution. Face aux plaintes liées à la combustion du charbon, problème de fumée, dénonciation des conséquences environnementales et sanitaires, on invente le fait de résoudre le problème par une solution technique. Non pas diminuer la consommation de charbon, mais en fait... inventer ce qu'on appelait à l'époque les fourneaux fumivores, c'est-à-dire des fourneaux miraculeux qui absorbent la fumée, hein, qui absorbent la fumée, donc qui limitent l'émission de... Et deuxièmement, c'est l'époque où on monte les cheminées d'usine. C'est-à-dire les cheminées d'usine, pour réduire les problèmes de pollution, on va monter la cheminée, ça va disperser la pollution dans l'atmosphère, il n'y aura plus de problème avec les voisins. Donc ces deux solutions, évidemment, ne sont pas des solutions, ça contribue à déplacer le problème. On transforme une fumée en une autre substance. C'est une technique de dépollution, c'est transformer en fait un toxique dans une forme liquide, gazeux ou dans une autre forme. Et donc le problème des déchets n'est pas résolu, mais il change de forme. Et la fumée, évidemment, n'est pas annihilée par la cheminée d'usine, elle change juste d'espace à une époque où on croit que le monde est suffisamment vaste pour absorber l'ensemble des contaminations. Bon, en gros, il se passe ça pendant 200 ans jusqu'à nos jours. Il se passe ça dans les années 30, il va se passer... L'électricité va être présentée comme la réponse, la solution aux apories du système énergétique ancien. Il va se passer ça ensuite après 45 avec le nucléaire. Il va se passer ça dans les années 70 avec la grande crise énergétique, le surgissement des débats écolo. Bon, il y avait des trucs que je voulais montrer, là, des revues. Parce que tous nos débats, ils étaient déjà là dans les années 70. Ceux qui ont connu les années 70, moi je suis fasciné quand j'ouvre les médias écolo des années 70. En fait, les alertes étaient déjà là, les constats étaient déjà là, les statistiques étaient déjà là. Qu'est-ce qui s'est passé après les années 70 ? Les décroissances apparaissent à cette époque-là, les mouvements écologistes, le retour à la terre, la volonté de réduire nos consommations. Nouveau cadrage modernisateur par le technosolutionnisme qui referme le débat dans les années 80, par la mondialisation couplée à une nouvelle technologie présentée comme miraculeuse, le numérique et l'informatisation, qui doit à la fois créer une société immatérielle, qui doit permettre de passer d'une industrie polluante, concentrée, hiérarchisée, à une société immatérielle, fluide, etc. Donc il n'y a plus de pollution dans le monde numérique. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 10 ans, on revient dans un moment d'interrogation technocritique. Je pense que c'est ça, on est dans des phases d'interrogation technocritique suivies de recadrage modernisateur par le technosolutionnisme. On est dans ce moment-là. Depuis le début du XXIe siècle, la question technique a ressurgi au cœur des enjeux écologiques. La querelle des OGM a joué un rôle majeur dans cette affaire-là, évidemment. Et depuis une dizaine d'années, tous les auteurs dont on a parlé, Günther Anders, Ivan Illich, Ellul, qui avaient été plus ou moins oubliés, sont redécouverts. Donc on a toute la littérature, on a toutes les expertises, on a tous les travaux sur ce sujet-là. Et là, on est dans un moment de bifurcation et d'enjeux majeurs, puisque d'un côté, vous allez avoir... les solutions de la décroissance, c'est-à-dire de réorganiser nos modes d'organisation sociopolitique pour permettre une décroissance matérielle, d'un côté, et de l'autre côté, à la hache, hein, je vous avais dit, et de l'autre côté, vous avez les accélérationnistes, les nouveaux modernisateurs dont le président Macron est évidemment la figure principale et l'incarnation dans le champ politique français d'aujourd'hui, qui eux annoncent encore qu'il faut relancer en fait la solution technique pour résoudre notre problème. Donc on assiste depuis quelques années à la multiplication des promesses technologiques nouvelles. Alors certains vont dire c'est l'hydrogène, d'autres vont dire c'est la relance du programme nucléaire, d'autres diront c'est l'accroissement de l'efficacité par l'intelligence artificielle qui par miracle va nous rendre plus efficients dans tous nos dispositifs socio-techniques. Et c'est une manière toujours de refermer le problème. Donc ça c'était mon premier point, mais je vais l'arrêter sur vous.
Voilà.
Alors il y avait...
Mais alors, non, le deuxième point, et là tu vas répondre rapidement quand même, parce qu'on est frustré, mais on n'a pas oublié, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'on comprend bien le processus successif par rapport aux différentes crises qui se présentent de l'imaginaire, mais c'est un imaginaire qui produit une solution.
Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Ouais, le charbon, le pétrole, le nucléaire à peu près vaguement.
Je peux essayer de le dire vite.
Essaye de le dire en deux minutes avant que Cédric, à nouveau...
Pourquoi ce technosolutionnisme ne fonctionne pas? Déjà, il ne fonctionne pas parce que, historiquement, toutes les promesses technosolutionnistes qui ont eu n'ont abouti qu'à une poursuite de l'accroissement de la crise écologique et de l'accumulation matérielle. Donc on le sait aujourd'hui, on n'a jamais brûlé autant de charbon, jamais brûlé autant de pétrole, jamais consommé autant de matières diverses et variées. Et ce qu'on a observé, c'est une addition. Or, précisément, les techniques ne servent pas à résoudre les problèmes écologiques. Les techniques servent, dans le système du capitalisme industriel, excusez-moi d'employer ces grandes catégories, mais j'ai 12 minutes, elles servent d'une part à faire du profit. Dans le système économique, elles servent à faire du profit, pas à résoudre les problèmes écologiques. Et donc, évidemment, ceux qui se présentent des solutions techniques, la plupart du temps, cherchent d'abord à construire des marchés pour accroître les profits. Premier point. Deuxième point, la technique ne résout pas les problèmes environnementaux, elle les déplace. Et historiquement, c'est ce qu'elle a toujours fait. L'arrivée de l'électricité n'a pas résolu. Elle a résolu localement certaines pollutions urbaines en permettant de construire des centrales thermiques beaucoup plus loin. On va brûler le charbon, mais à distance, et on va l'amener en ville par un réseau d'approvisionnement. Donc c'est ça, et les techniques servent toujours à ça. C'est ce qui s'est passé aussi dans les années 70-80 avec ce qu'on appelle la désindustrialisation. La désindustrialisation est un déplacement dans l'espace de certaines formes de travail et de certaines formes de nuisances. Ce n'est pas une disparition de la consommation de charbon. La consommation de charbon a continué de croître de façon considérable depuis les années 70. Alors certains disent « Ah bah oui, mais les villes, il n'y a plus de fumée dans les villes. » Donc vous voyez bien qu'on a dépollué. Non, c'est parce que le nouveau système technique a permis de déplacer les nuisances dans l'espace. Et c'est ce qui se passe en permanence et c'est ce qui va se passer avec l'électrification, qui n'est pas une solution technique, qui est une manière de déplacer à nouveau les énergies consommées, l'endroit où on produit des déchets, etc. Donc c'est...
Alors, ça nous permet quand même de préciser une chose importante par rapport à...
Bravo.
De préciser une chose importante par rapport à l'intitulé de notre débat, c'est que le salut dont il est question, c'est pas le salut global dont éventuellement le capitalisme pourrait se revendiquer en disant bah, c'est dommage, il y a le problème écologique, lui on n'a pas résolu, c'est le salut écologique. Et de ce point de vue-là, la démonstration, je pense, est sans appel pour l'instant. Cédric Villani, en 12 minutes, est-ce que pour entrer en débat, pour entrer en discussion, hein, vous inquiétez pas, il va reparler le camarade et lui aussi. Cédric Villani, est-ce que le salut par la science et la technique en matière d'écologie, évidemment, on en est où, selon vous?
Alors, en préliminaire, je voudrais signaler qu'aujourd'hui, 22 octobre, il y a une importante marche pour la préservation des terres agricoles en Île-de-France. Au début, elle était prévue pour le 16 et je devais y être et puis ça a été déplacé. Et premièrement, je vous invite tous et toutes à faire le maximum de publicité pour cette marche pour les terres agricoles en Île-de-France. C'est le plateau de Saclay, c'est le triangle de Gonesse. Mais aussi, ça nous montre bien, en particulier par rapport au territoire de Saclay, les enjeux qui sont ici. L'algorithme peut apporter, et je donnerai des exemples, du progrès et du bien, mais si on ne le cadre pas, ce n'est pas lui qui viendra le salut. Et en matière de terres agricoles, si vous bousillez vos terres avec trop de construction et de béton, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toute l'algorithmique du monde, toutes les technologies du monde ne vous rattraperont pas votre terre fertile. Il y a un cadre à poser dans lequel il y a des priorités qu'il faut établir et travailler dans ces priorités. Et en matière agricole, on en reparlera. L'algorithmique, ça peut aider, mais ce n'est pas de là que viendra le salut. Je note que le salut qui était là avait une connotation quasiment religieuse, et quand on parle de technosolutionnisme, c'est bien ça. Ce n'est pas tant le fait de résoudre des problèmes que la croyance dans le fait que la solution, que la toute-puissance est dans la technologie. C'est une croyance, vous ne pouvez pas la réfuter. Quelqu'un peut toujours vous dire « je crois, je suis persuadé que la solution viendra de là ». Et de façon paradoxale, l'un des meilleurs ouvrages que je connaisse pour guérir les personnes sincère du technosolutionnisme, c'est l'ouvrage de Bill Gates. On en parlait hier avec Fressoz, et on est tombé d'accord, lui et moi, pour l'avoir lu attentivement, que c'était un merveilleux ouvrage sur le sujet. Écrit par un technosolutionniste sincère, pédagogue, qui croit vraiment à ce qu'il fait, et qui est très bon pour expliquer les enjeux de la décarbonation et ainsi de suite, mais qui tire les conséquences, et c'est comme une démonstration par l'absurde. Il nous dit, voilà, comme il va falloir... consommer de la viande artificielle pour plus avoir d'empreinte carbone de l'élevage, comme il va falloir faire du béton sans carbone pour ci et ça, tout va être remplacé par l'électricité et il va falloir multiplier par au moins 5 la production électrique dans la génération qui vient. c'est le chiffre qui donne. Vous avez vu les annonces de EDF, vous avez vu comment on a du mal à maintenir, ne serait-ce que maintenir les chiffres actuels. Vous avez lu peut-être le rapport RTE qui vous dit à horizon 2050, déjà arrivé à plus 40%, ça sera un exploit technologique. Nous, il dit x5 au moins. Et puis, il y a un certain nombre de domaines, comme l'agriculture, justement. Il nous dit, les engrais, ça a sauvé le monde de la famine, c'est super. Mais les engrais manquent de chance à un fort impact carbone, les engrais fossiles, à cause de la réaction de Haber-Bosch. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, lancer un grand concours d'innovation et financer de la recherche mondiale à coût de milliards et de milliards dans le monde pour trouver la solution. Ça, c'est du vrai technosolutionnisme. Je ne vois pas la solution des outils qui sont là, mais je suis convaincu, et allons là-dessus, chers amis, qu'à coût de milliards, on trouvera la solution technologique qui nous permettra, et nous dit bien, parce qu'on ne peut pas imaginer de vivre sans burger, ça fait partie de la civilisation. Alors, là, c'est comme la démonstration par l'absurde, si vous voulez, venant de quelqu'un de sincère. Ce côté quasi-religieux, il est important dans la dimension. Tout à l'heure, François nous parlait de certaines dates importantes. Et je vais réinsister sur la Seconde Guerre mondiale par rapport au rapport à la technique. D'abord, quand on dit la technologie ne résout pas les problèmes, elle déplace, peut-être, n'empêche que la Seconde Guerre mondiale, elle s'est gagnée à coup de technologie et de sang aussi. Il y a eu en particulier les incroyables débauches de sang du côté russe. Mais du côté américain, ça a été technologie, ça a été le radar qui était fourni par les Britanniques, ça a été le projet mathématique Enigma et sa solution, non seulement par le mathématicien britannique Alan Turing, mais par les mathématiciens polonais qui l'ont précédé. Sans ça, le débarquement de 1944, il était impossible. Bataille contre la montre, et là, c'était de la haute technologie et aussi une grosse dose de science. J'insiste pour qu'on parle des deux, et science et technologie, et ici on est sur technologie, et science, souvent on l'associe à technologie, en fait, sont des choses largement différentes et connotées très différemment dans le monde politique. Ça a été un peu une surprise pour moi, mais à l'usage, c'est complètement vrai. À tel point qu'il y a quelques semaine, je ne sais plus qui s'était amusé à faire à base d'IA une espèce de détecteur automatique qui vous dit quand vous balancez tel ou tel concept ici de droite ou de gauche. Et je voulais justement avoir sa réponse là-dessus. J'ai mis science, il a répondu gauche. J'ai mis technologie, il a répondu droite. Exactement comme ça a été mon expérience vécue pendant des années à l'Assemblée nationale. Plus ou moins dans certains pays, et au maximum certainement aux États-Unis, où vous avez les républicains qui sont les pires technosolutionnistes qui soient et qui, en revanche, ne veulent pas entendre parler de science, au point de refuser d'applaudir quand le président Macron était venu leur dire « je crois en la science » dans son grand discours auprès du Congrès, là où les démocrates se levaient. Vous avez des connotations et des valeurs politiques qui sont aussi associées à science et technologie et qui ne sont pas forcément les mêmes. Tout à l'heure, on parlait de mathématiciens, et tout à l'heure, François nous parlait aussi de La Gueule Ouverte. À la même époque que La Gueule Ouverte, il y avait un autre magazine important qui s'appelait Vivre et Survivre. Alexandre Grothendieck faisait partie des fondateurs, mathématiciens de génie, peut-être le plus extraordinaire de la seconde moitié du XXe siècle. Je vais vous lire une citation de Grothendieck de 1974, donc on est en plein dans la période, qui illustre très bien le débat. « Nous pensons, nous dit-il, que de plus en plus la principale ligne de partage politique se trouvera moins dans la distinction traditionnelle entre la gauche et la droite que dans l'opposition entre les scientistes tenant du progrès technologique à tout prix et leurs adversaires, idées grosso modo, ceux pour lesquels l'épanouissement de la vie, avec une majuscule, dans toute sa richesse et sa variété, et non le progrès technique, a priorité absolue. » C'était en 1974. C'était pas mal. Alors, là où il dit la gauche et la droite, ça s'effacera, évidemment, il ne pouvait pas anticiper qu'on aurait des clivages qui perdureraient et qui, encore aujourd'hui, sont à l'œuvre de façon extrême. Mais le clivage qui donne entre partisans de la vie et technosolutionnistes, il est absolument d'actualité, il a continué. Et puis, dans les rappels aussi, tout à l'heure, je parlais de la Seconde Guerre mondiale, mais je vais réinsister encore, date particulière dans la Seconde Guerre mondiale, c'est le 6 août 1945, quand la bombe atomique explose à Hiroshima. Et où là, pour la première fois, le monde entier se réveille en se disant non seulement la technologie a un impact, mais elle peut juste détruire le monde. Et dans le même temps, arrive, c'était bien analysé hier par Fressoz, de la part de scientifiques qui ont travaillé dessus, un contre-narratif disant ça peut aussi le sauver. Et vous voyez des gens comme Léo Szilard, l'un des artisans du projet Manhattan, et plus tard un des anti-militaristes nucléaires les plus influents, dire « l'énergie nucléaire va nous apporter quelque chose d'incroyable », et les autres aussi, ils disaient le même genre de choses. « On n'aura plus besoin de pétrole », on disait ça en 1945. « On va pouvoir résoudre le problème de la mobilité, une petite pastille nucléaire permettra à nos voitures de rouler, le problème d'énergie sont résolus », et ainsi de suite. Et tout de suite, cette contrepartie, cette idée que cette très grande puissance de destruction qui marque peut-être, ça peut aussi sauver le monde. On voit aussi ce même genre d'imaginaire et de raisonnement implicite dans les technologies d'aujourd'hui. Parler de l'intelligence artificielle, et on va aller là-dessus. Quand un Musk vous dit « ça peut détruire l'humanité », évidemment qu'il dit ça pour insister sur la puissance de l'IA et pour attirer les investisseurs, se disant « Musk a compris, il investit sur l'IA, si ça a un tel pouvoir de destruction, ça a aussi un tel pouvoir de changer le monde, je vais lui apporter mon soutien et de l'argent ». Quand les gens de DeepMind vous disent « avec l'IA, on va résoudre tous les problèmes écologiques du monde parce que on va programmer une intelligence artificielle capable d'imaginer des solutions que nous ne pouvons pas imaginer pour sauver le monde. » Pareil, complètement irrationnel. Pourtant, c'est dit par des gens qui sont parmi les meilleurs experts du monde en développement d'intelligence artificielle. S'ils tiennent un tel discours, il y a deux solutions. Soit ils sont au fond d'eux convaincus de façon complètement irrationnelle qu'il y a une découverte qui va les amener à un statut de prophète. Soit c'est purement cynique pour attirer les investisseurs et les capitaux par centaines de milliards. Dans certains cas, ce n'est pas clair lequel des deux, et les deux sont à coup sûr présents dans la Silicon Valley. Alors parlons de l'intelligence artificielle et commençons par démystifier en disant que ce n'est pas ça la menace de destruction du monde. On a été très fort pour en inventer bien d'autres. Ce n'est pas ça non plus qui va sauver le monde. Ça peut aider, ça peut nuire. Pour l'instant, ce n'est pas encore clair savoir si ça va plus aider que plus nuire. Mais ce n'est pas là qu'est l'impact majeur, et en particulier les questions écologiques, ce n'est pas là que ça se joue. L'IA, c'est bon pour la question de l'information, le transfert d'information. Alors peut-être, ça peut être le grand projet de domination des cerveaux tel qu'on le voit à l'œuvre en Chine et bientôt dans d'autres pays dans le monde. Peut-être, ça va être au contraire des grands projets d'instruction qui vont libérer le monde. Mais ça ne changera rien a priori aux grands problèmes d'ordre physique, chimique et biologique qui aujourd'hui domine la crise du trop de voitures, la crise du trop de maisons individuelles, la crise du trop de déplacements et tout ce genre de choses qui se comptent à la fin en impact carbone, en destruction d'espaces de biodiversité et autres, en termes du XXe siècle, en termes de biologie et de physique et de chimie. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA? Et d'abord, petite remarque, quand j'ai rendu mon rapport au gouvernement, en mars 2018, intelligence artificielle, les collègues parlementaires dans l'ensemble étaient plutôt intéressés. J'avais eu le plus grand mal à trouver dans les partis classiques, de gauche comme de droite, et encore plus à gauche qu'à droite, des gens qui s'intéressent à ça. Côté insoumis, il y avait un réel intérêt. Il y avait zéro député à l'Assemblée nationale à l'époque, écolo. Mais la plus forte réponse parlementaire que j'ai eue, elle est venue des Verts allemands, qui m'ont invité au Bundestag, qui ont organisé une table ronde où on parlait des changements de l'IA, de l'éthique de l'IA, sujet qui leur tenait énormément à cœur. Par-dessus, une fois que j'ai, autant que j'étais au Bundestag, les libéraux allemands, le FDP, se sont intéressés au sujet, posaient plein de questions. Les autres formations politiques n'en avaient rien à faire. Mais l'intérêt, la famille politique qui a réagi tout de suite, c'était les écologistes, et à coup sûr avec ce fonds d'intérêt pour les sciences qu'Hervé décrivait tout à l'heure, qui fait partie du cœur de culture écologique, même dans la fondation. Intelligence artificielle, maintenant, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'on aurait créé une technologie qu'on ne maîtriserait pas. C'est que la définition, le périmètre, il n'y en a pas. J'avais commencé mon rapport en bon mathématicien en me disant, chapitre 1, je mettrai la définition et puis on continuera avec ça. Au bout de quelques auditions, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de définition possible. Intelligence artificielle, ça ne se définit pas par une technique, parce que vous en avez des dizaines ou des centaines, ça se définit par un usage. Et on va dire, comme définition de travail, que c'est une technologie qui automatise ce que vous croyez ou que nous croyons naïvement être du ressort de la compétence humaine. Évidemment, c'est une définition qui change. C'est une définition qui évolue au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle technique. une définition qui peut dépendre du contexte. Et on ne fait pas mieux. Hervé surveille le timing. C'est fini. Oh là là. Oh là là. Alors, je vais conclure en deux phrases en disant que cette intelligence artificielle, même si elle ne sauvera pas le monde et que ce n'est pas là que sont les gros enjeux, elle va vous apporter une aide ici et là. Et on l'utilise déjà. Google Maps, c'est de l'intelligence artificielle. On est un certain nombre à l'avoir utilisé ce matin pour se rendre de l'hôtel à ici ou pour trouver notre chemin plus tard, pour trouver quel est le bus qui va être là. Ça peut être Google Maps, ça peut être Waze ou ce que vous voulez. La fonction traduction qu'on utilise, qui nous permet de retweeter des tweets des femmes iraniennes en soulèvement écrits directement en farsi sans se donner la peine de le traduire, c'est l'intelligence artificielle. On l'utilise sans même s'en rendre compte. La fonction détection de tumeurs mammaires faite par les algorithmes d'IA qui aujourd'hui est plus sophistiquée, plus efficace que ce que font les meilleurs humains et qui a déjà sauvé la vie à quelques personnes dans le monde, pas beaucoup. Sauver les personnes dans le monde, ça dépend avant tout de l'état de vos structures hospitalières, de l'architecture humaine, ce que vous voulez. Mais dans certains cas, les diagnostics qui ont été améliorés par rapport à ça, c'est de l'intelligence artificielle. L'algorithme qu'on va développer, par exemple, à l'IFPEN pour optimiser les positions des éoliennes les unes par rapport aux autres pour que le rendement soit le meilleur, c'est un mélange d'optimisation, intelligence artificielle et de ce que vous voulez. Les algorithmes qui vous détectent à partir de photos satellitaires, quels sont les endroits qu'il faut privilégier en les croisant avec des données géologiques par rapport à la réimplantation de biodiversité, d'espaces verts dans tel ou tel endroit de la ville, c'est de l'intelligence artificielle.
Oui, donc, voilà, ça on a compris.
Et voilà.
Mais bravo. Alors l'un et l'autre, vous décalez votre chaise légèrement vers la droite pour François, légèrement vers la gauche, voilà d'un angle de 15 degrés par rapport à l'hypoténuse, et vous, on va essayer. Hein, vous vous regardez un peu de temps en temps. Ils sont là, on est tous là, on écoute.
Bonjour François.
Là, il y a un feu de cheminée. Voilà, on bah, alors moi, pour rebondir. Ok, vous partez sur l'intelligence artificielle, mais l'enjeu par rapport à la conclusion, enfin le rapide, à la hache, mais précis récit historique que nous a fait François, c'est la solution quand une crise écologique advient. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas présentée comme résolvant, étant amenée à résoudre la question écologique. Et plus globalement, la question écologique n'a pas vraiment de solution. Moi, je pousserais la question plus loin. Est-ce que il n'y a pas une forme de... C'est au-delà du cynisme. Mais en fait, les dominants d'aujourd'hui ne prétendent pas sauver le monde. Ils sont... Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse et comment vous réagissez? Ils reconnaissent qu'il y a une crise écologique. Ils vont dire, il faut faire à fond des énergies renouvelables. Éolien, marin, solaire, etc., sans trop se poser de questions. Attends, ils vont dire, il y a un peu, on va faire du nucléaire. Ils vont dire, mais ils vont pas, ils vont dire la séquestration du carbone. On sait, comme Gérald Baptiste l'a rappelé hier, que ça marche pas. Enfin, ils sont sur plein de voies dont vas-y.
Il n'y a jamais de solution unique et personne ne te dira, mais ce que vient de dire Cédric, c'est que l'IA était une brique dans un ensemble de solutions techniques qui allaient permettre d'optimiser l'efficacité. Donc mesurer les surfaces agricoles, permettre de préciser sur combien d'intrants on peut avoir sur telle surface pour réduire la consommation de pesticides, c'est ce que j'appelle précisément du solutionnisme technologique. Parce qu'on ne voit pas tout ce que produit par ailleurs l'IA, en fait c'est un élément, alors, quand tu dis qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est évident. Moi j'avais déjà discuté avec des informaticiens spécialistes du sujet qui passent leur temps à dire mais c'est n'importe quoi, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est de la promesse technoscientifique. C'est-à-dire que ça sert essentiellement à accaparer des financements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand tu dis il faut distinguer la science et la technique, c'est compliqué cette affaire. Parce que, en fait, la science, c'est une catégorie très globale aussi qui naît pour l'essentiel. L'idée de parler la science en général, comme s'il y avait une unité entre les différents savoirs.
On peut dire les sciences.
Je peux finir. Mais ça, c'est vraiment une invention typique du milieu du 19e siècle aussi, au moment où s'invente aussi la technique en général. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de sciences. Il y a une science écologique qui était en opposition avec d'autres formes de sciences. Il y a des conflits entre des savoirs scientifiques. Et c'est pour ça qu'au fond, c'est des questions politiques. Donc, il y a les physiciens, il y a les sciences du climat, il y a la science du vivant, il y a la science écologique, il y a plein de sciences, il y a plein de savoirs qui eux-mêmes se redéfinissent et sont extrêmement complexes et qui parfois s'affrontent, qui parfois s'opposent. Donc il n'y a pas des gens qui sont pour la science. Ça veut rien dire. Il y a des gens qui ont des projets de société, qui ont des visions du monde, et après, on peut utiliser différents leviers pour faire advenir ça. Mais la science, en général, c'est une sorte de mystification aussi, qui est liée, justement, qui est l'héritage du 19e siècle, pour l'essentiel, et du positivisme, scientisme, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, comme tu sais, on parle. Mais moi, je suis historien du 19e, donc c'est difficile de discuter avec Cédric de Villani de questions qui connaît mieux que moi, évidemment. Mais tu sais bien que, depuis les années 70-80, on parle, il y a une nouvelle catégorie qui a surgi, on parle de technoscience. Qui est un truc un peu bizarre. Parce que précisément, aujourd'hui, on peut plus véritablement faire la part entre la science d'un côté et le domaine des applications. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la science, c'est des micro-recherches hyper précises dans des domaines très singuliers qui eux-mêmes s'appuient sur un appareillage technologique, des grosses machines de plus en plus complexes. Et les deux se nourrissent. Et ce qu'on appelle la technologie, c'est aussi, évidemment, le produit de découvertes scientifiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de technoscience. Parce que la fabrique de la science est désormais modelée par des enjeux industriels. Par des enjeux économiques. Et c'est ça qui est terrifiant. Aujourd'hui, un chercheur, il est obligé de faire la course à l'échalote de la promesse technoscientifique pour accumuler pour avoir des financements, pour avoir des projets, puisque la recherche aujourd'hui fonctionne par projet. Ça veut dire quoi un projet ? C'est-à-dire que les chercheurs passent leur temps à perdre du temps, à faire de la bureaucratie pour avoir la chance d'avoir un petit financement pour développer leur projet. Ce qui pousse évidemment. Alors c'est très drôle, il y a 15 jours, j'ai reçu un mail d'un physicien de l'Institut de Grenoble qui me dit. On a organisé un séminaire, on aimerait que vous veniez parler de technocritique parce qu'on hésite, on se demande s'il faut répondre aux appels à projets sur l'intelligence artificielle. On sait que c'est n'importe quoi, on sait que ça va aboutir à des aberrations, on sait que ça va accentuer la crise écologique parce que c'est l'outil qui va permettre de déployer de plein de gadgets technologiques, numériques partout et l'intelligence artificielle, c'est ça aussi, c'est démultiplier des objets, démultiplier de nouvelles formes d'usage de technologies dont on n'a pas forcément besoin et qui vont devenir bientôt rapidement. Et ce chercheur me demandait à moi, obscur historien du 19e siècle qui ne connaît rien à rien, que venez nous donner des arguments pour qu'on puisse ne pas répondre aux appels à projets. Et si on ne répond pas aux appels à projets, on est mort comme chercheur, parce que c'est comme ça que fonctionne la fabrique de la science aujourd'hui. Et ça, c'est terrible.
Cédric Villani, est-ce qu'il y a la science ou des sciences, la technoscience
Moi, j'aime bien savoir si la technoscience, je ne sais pas trop ce que c'est, je n'emploie pas ça personnellement. La science, les sciences, j'aime bien le pluriel quand même, vu la très grande variété. En revanche, au contraire, je suis complètement partisan de mathématiques au singulier. Il n'y a pas de raison qu'on parle des mathématiques alors que la physique, la biologie, la chimie, la philosophie, etc. Il n'y a pas de raison. Bon. Et les gens vous disent, ouais, mathématiques, c'est très divers. Je dis, non, la physique, c'est très divers aussi. Il n'y a pas de raison. En fait, c'est une survivance de la vieille classification platonicienne des arts mathématiques dans laquelle on incluait la musique et l'astronomie. Donc, c'est complètement obsolète. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, cependant, on peut voir la science, ou les sciences, on peut dire, c'est un corpus de savoir qui normalement s'accroît toujours, parfois revient en arrière parce qu'on trouve qu'on s'est trompé. Parfois voit des pans entiers tomber en déshérence, parfois est lié à des visions philosophiques du monde, parfois induit en erreur par telle ou telle position politique. C'est aussi des communautés. Quand on lit le document extraordinaire les fichiers de les conversations et les récits des scientifiques du projet Manhattan ou de leurs adversaires du bloc allemand qui était bien moins avancé, on voit tous les conflits qu'il peut y avoir ou toutes les différences culturelles qu'il peut y avoir entre les scientifiques qui sont en train de mettre en place le principe de la bombe atomique et les techniciens qui sont en train d'essayer de le construire. Grande incompréhension de part et d'autre. Grand conflit aussi avec les militaires d'ailleurs. Alors, les scientifiques expliquent que les militaires ne comprennent rien, que même si on leur file le projet clé en main, ils seraient capables de tout saboter et ainsi de suite. Et derrière, il y a des cultures et des réflexes qui sont extrêmement différents. Quand on dit technique, on pense à quelque chose qui se transmet. Tout à l'heure, tu nous parlais de technique comme quelque chose qui permet de retenir. Ben, technique, technologie, c'est quelque chose qui se transmet. Il y a une notion de savoir-faire, il y a une notion d'habitude, il y a une notion aussi de société qui s'habitue à quelque chose. Avec une technique viennent des industries, des intérêts, des compagnies dont ça va être le boulot de répliquer telle et telle technique. Des lobbies qui vont essayer de faire préférer telle technique à telle autre parce que c'est eux qui ont le savoir-faire et pas les autres. On s'habitue. Avec les sciences, normalement, c'est une question qui, au niveau du savoir et de la conception, on est capable, plus libre de changer, plus libre de dire que dans l'absolu, telle ou telle chose pourrait être là. On peut arguer que la science est neutre, on ne peut pas arguer maintenant que la technique est neutre, quand on voit tout ce que ça vient, comme avec les addictions, les remplacements, les pertes de savoir-faire qui viennent avec. Et c'est vrai, en revanche, là où je suis complètement d'accord, c'est sur le fait que c'est traversé de conflits. Grand conflit entre scientifiques, bien sûr. Mon préféré, c'est le grand conflit de la fin du XIXe siècle qui va être familier entre Lord Kelvin et Sir Charles Darwin. Et le grand conflit sur l'âge de la Terre, où vous avez le plus grand physicien de son époque qui argumente pour telle et telle raison mathématique et physique que la Terre est âgée de quelques dizaines de millions d'années. Et de l'autre côté, le scientifique le plus sulfureux du XIXe siècle, Charles Darwin, qui vous explique que la Terre doit avoir quelques milliards d'années pour donner le temps à l'évolution et ainsi de suite. Et Kelvin, quasiment jusqu'à sa mort, a pas admis son erreur. Induit, influencé sans aucun doute par ses conceptions religieuses, par son incapacité à admettre l'évolution des espèces, c'est même lui qui a inventé le mot « intelligent design ». Et sur cet exemple, on voit comment les scientifiques peuvent se tromper, mais à l'échelle de quelques décennies, la science peut revenir et admettre ses erreurs. La France, c'est parfois dur. Et on va donner des exemples sur l'écologie. Découverte du pouvoir biocide du DDT, prix Nobel. Ça devait être en 1930 ou quelque chose comme ça, pour le scientifique qui découvre ça. 30 ans plus tard, Rachel Carson, vous le citez tout à l'heure, le livre « Printemps silencieux », DDT et ses dérivés, ennemi public numéro un de l'humanité. Salué comme DDT est salué comme quelque chose qui allait apporter la santé à l'humanité en 1930, 30 ans plus tard, au contraire, ça apporte la mort. Découverte des plastiques, 2 prix Nobel dessus. Aujourd'hui, enjeu de pollution publique numéro un partout dans le monde, des enjeux terribles. Mais arrêter cette production de plastique ? Où le problème n'est pas tant scientifique que la mise en œuvre technique, technologique à grande échelle. Et là, on voit que ces débats, ils sont aussi intrinsèques à la science, discipline qui peut se tromper et qui n'est pas tant une discipline d'accumulation de savoir qu'une méthodologie pour avancer dans l'inconnu, et qui a besoin sans arrêt de lutter avec le pouvoir, comme par rapport à ce que tu décrivais sur l'abondance des appels à projets, sur les effets de mode et sur le fait d'essayer de maintenir son indépendance par rapport à la société et parfois de dire quand telle ou telle technologie doit être abandonnée.
Et ben pour le moment, on a vraiment quand même l'impression que le pouvoir, enfin, je ne vais pas parler à la place de Jean-François Jarry, je te lance la perche, est-ce que la science est indépendante du pouvoir en ce moment ? Et cette science qui... Enfin voilà.
C'est compliqué comme. Oui. Alors bon, s'il faut dire les choses un peu clairement, moi je pense pas. Enfin, je pense pas que la science existe comme ça, que ça soit c'est une valeur quasiment qui s'est construite au 19e siècle. Au moment où ce qui faisait tenir les sociétés anciennes s'est effondré, enfin, je vais le dire un peu brutalement, mais ce qui s'est effondré, la religion qui faisait fonctionner, qui faisait tenir les sociétés s'est effondré au 19e siècle. Et Lull, c'est lui qui disait, c'est pas le problème, c'est pas la technique, c'est le sacré transféré à la technique. Et au cours du 19e siècle, on a eu un sacré transféré à la science et à la technique qui était chargé de résoudre tous les problèmes avec ces nouveaux prêtres. On est dans des abbayes où s'est construite cette nouvelle prêtrise. On est dans l'abbaye de Cluny. Qui a été nationalisé. Les biens du clergé ont été vendus sous la Révolution. Et là, vous savez où on est. On est dans une école d'ingénieurs qui a vu le jour à l'initiative de Napoléon au début du 19e siècle pour créer les petites mains de la Révolution industrielle et du développement industriel. Il y avait les ingénieurs des mines au-dessus qui étaient chargés de penser. D'ailleurs, je rappelle qu'en juin dernier, vous avez des étudiants de l'école des mines qui ont dit que la technique ne nous sauvera pas et qu'il fallait abandonner le salut par la technique. En juin dernier, lors d'un des discours de remise des diplômes.
On en parle tout à l'heure à la session suivante.
Et donc, au début du 19e siècle, on remplace l'abbaye par une école de formation des ingénieurs. Donc, les ingénieurs des mines qui se pensent comme des scientifiques appliqués, puisqu'ils ont comme fonction les polytechniciens, en fait, d'installer la société thermo-industrielle, d'installer le charbon. C'est des gens qui ont une haute formation scientifique, c'est ce qui leur donne leur légitimité dans l'appareil d'État, d'ailleurs, historiquement. Et à côté, vous avez d'autres formations techniques qui vont être inventées, notamment les gazards, qui sont là pour servir de faire un peu de mettre de l'huile dans la machine et accompagner la mécanisation du travail, l'invention du taylorisme, ça va être les gazards. Donc, voilà, au 19e siècle, les ingénieurs, les techniciens vont être placés à l'écart du champ politique. Parce que la science et la technique, comme ce sont, c'est une valeur en soi qui permet le progrès, elle n'est plus l'objet de délibérations collectives. Et donc, c'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis, la science est politique dans le sens où les recherches scientifiques, ce qui débouche des recherches scientifiques, devrait faire l'objet de délibérations collectives. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez des informaticiens, des chercheurs, des savants, des physiciens qui bossent sur l'intelligence artificielle, qui vont inventer et mettre au point des choses magnifiques, et qui, une fois que les choses seront plus ou moins maîtrisées sur le plan scientifique et technique, vous avez des industriels fous qui vont essayer de construire des marchés avec ces résultats. Et les savants diront, bah, c'est pas nous. Hein. Nous, on a juste inventé des choses nouvelles qui permettent des applications, mais après, les applications, c'est à la société de se débrouiller avec ces applications. Et ça, on peut plus. Parce que, on peut plus parce que c'est pas, ça fonctionne pas aussi simplement que ça. Vous avez pas d'un côté les scientifiques qui découvrent et de l'autre des gens qui appliqueraient. C'est-à-dire que les découvertes scientifiques sont elles-mêmes le produit de demandes sociales, de demandes d'acteurs économiques, d'acteurs politiques qui orientent très fortement les choix de recherche, les thématiques de recherche. Et donc, en fait, il y a un mouvement dialectique en permanence. Et c'est en ça que la science est politique. Parce que la science répond toujours à des imaginaires collectifs, à des orientations qui sont celles d'un système politique, d'une demande sociale. Et les scientifiques, ils sont pas, on n'est plus au 18e siècle où chacun avait son petit laboratoire, il faisait ses petites expériences pour découvrir la chimie avec Lavoisier. Aujourd'hui, un scientifique, il voit une tête d'épingle dans une chaîne de complexité infinie et il invente, il voit pas d'ailleurs ce qu'il élabore, parce que ce qu'il élabore, ce sont les financeurs qui ont la chaîne de commandement, en fait, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste que c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais ce que je pense, c'est qu'il faut complexifier. Il faut complexifier la lecture qu'on a de la science. La science, c'est pas juste de doux génies qui vont découvrir le secret, qui vont découvrir que la Terre est très ancienne, que la Terre ne tourne pas autour du soleil, qui vont découvrir.
Attends, c'est Cédric, ça, en fait. C'est un peu un génie quand même.
Mais bien sûr, il y a des génies.
Médaille fit.
Mais Cédric, c'est un mathématicien, c'est très particulier.
Alors, est-ce que la mathématique, c'est à l'écart de la science alors?
Les mathématiciens, c'est particulier.
Bon, alors. Allez, vas-y.
Mathématique est une discipline particulière, ça c'est pas complètement faux, avec une communauté qui a des habitudes particulières, mais très impliquée dans les autres sciences.
Ok, alors revenons quand même à ce qu'il vient de dire. D'accord. Non, mais vas-y, rebondis sur. Pas la mathématique, mais ce qu'il vient de dire sur quand même la science, on le dit maintenant, c'est clair. C'est plus la science même de Kelvin ou Darwin qui est effectivement. Oui. Il faut du gros appareillage, il faut des fonds.
Et la science, c'est aussi des recherches que j'ai vues il n'y a pas longtemps dans un laboratoire de l'INRAE pour analyser en fonction de si on fait du labour profond ou pas dans le sol, quelle est la différence sur la qualité et l'aération du sol. C'est aussi le fait de savoir si telle ou telle culture qui viennent l'une après l'autre.
Et combien de budget? Parce que toute l'histoire de l'INRAE depuis 45, c'est l'histoire aussi d'élimination de certaines recherches qui étaient considérées qu'elles n'allaient pas dans le sens de la politique agricole dominante. Et donc, les chercheurs qui cherchaient en logique d'agrobiologie, d'agroécologie, ils ont été marginalisés en permanence dans toute l'histoire de l'INRA. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a des investissements. Il faut peser le, combien il y a d'investissements pour ça et combien d'investissements pour les drones connectés pour faire l'agriculture 3.0.
Cédric. Allez, vas-y.
Il y a d'abord une règle générale triste qu'on sait bien, et c'est l'un des problèmes avec science et technologie, bien sûr. Ça sert tous les intérêts, n'importe quel intérêt qui est capable de se payer de la recherche scientifique. Et de façon générale, les intérêts privés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent à mettre là-dessus que les intérêts publics ou que les intérêts qui vont dans le sens du bien commun, pour lesquels il n'y a personne en particulier qui va payer. Pour continuer avec l'agriculture, il n'y a pas longtemps, a été sorti il y a quelques temps dans un rapport technique de tous les grands noms des engrais de l'industrie agrochimique, les Dow Dupont, Syngenta, Bayer et autres, un rapport technique qui évaluait quelle était la proportion des molécules actives dans les produits qu'on utilise aujourd'hui qui seraient interdites si les nouvelles règles d'évaluation de l'EFSA, l'Agence européenne d'évaluation du risque sanitaire, étaient mises en place comme préconisées par certains des experts de l'EFSA eux-mêmes depuis une dizaine d'années. Et concluait que c'était de l'ordre de 90% en gros. Alors, il y avait la relation entre les fongicides, les herbicides, les pesticides. Aucun scientifique travaillant dans le secteur public n'a des données aussi précises. L'industrie ici a accès à des expériences et des conclusions
ça
bien précises.
Ça va dans le sens de ce que dit François.
Ben, j'ai le droit d'être d'accord quand il a raison.
Donc on en est où maintenant? C'est-à-dire que, à la limite, je vais pousser
le
bouchon plus loin.
Il a attaqué sur une question de principe en disant la science est toujours récupérée par ci ou ça. Je dis, il y a des inégalités qui font que les intérêts constitués ont plus d'accès à la science, mais c'est le boulot du politique, excusez-moi, que de mettre des normes et d'avoir le courage d'empêcher ces pesticides d'être là, c'est un problème politique.
Alors on tourne en
et
rond.
Et ce sont les pays, les États-nations européens qui n'ont pas le courage, depuis 10 ans, de résoudre ce problème politique. Mais tous nos sujets écologiques, mon ami, ils sont avant tout politiques, bien plus que scientifiques.
Ouais, enfin, on essaie de parler d'autre chose que de politique, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. C'est évidemment toujours là. Vas-y, François.
Mais on ne parle que de politique.
On est d'accord.
Ce qui est compliqué, c'est complexe aujourd'hui, c'est que justement, la fabrique de la science est profondément politique. Les objets techniques sont eux-mêmes politiques. C'est la matérialisation de choix politiques. C'est ce que fait l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan milite pour la reconquête de la souveraineté technologique des paysans. Et dans leur bouquin « La Terre, reprendre la terre aux machines », qui est un manifeste politique, ils considèrent que la technologie est intrinsèquement politique. Parce que c'est quoi de la technologie ? C'est de la concrétisation dans la matérialité de rapports sociaux, d'imaginaires culturels, de rapports de force qui s'orientent là-dedans. C'est pour ça que dans les solutions que j'aurais bien aimé développer un peu dans la dernière partie, il n'y a pas de solution, mais je pense qu'il y a trois pistes. Il y a trois trucs.
Allez, vas-y.
Tu discutes, dis ton truc, et puis on t'empêchera
quand on a envie de dire un truc. Allez, vas-y.
Je dis mon truc, c'est les trois trucs. Enfin, je pense que les trois perspectives, là, si on devait réfléchir à des stratégies politiques pour sortir de ce nœud de problème dans lequel on est, c'est d'abord, premièrement, démystifier les promesses technologiques hors sol dont on est saturé. Donc ça passe par exemple par interdire la publicité. La publicité, c'est le dernier relais de la promesse technoscientifique pour accéder directement aux consommateurs. Et il y en a plein intermédiaires, et les projets de recherche scientifique sont eux-mêmes des textes publicitaires pour produire de la promesse technoscientifique, pour accueillir, pour intéresser le financeur. Donc démonter les promesses technoscientifiques. Quand je regarde, j'ai pas lu très en détail, j'avoue, le rapport sur l'IA, je trouve que je retrouve la promesse technoscientifique, parce que les gens que vous avez interrogés sont des gens qui sont dans le métier, qui sont dans le secteur, dont les revenus viennent largement du développement de cette nouvelle activité. Donc c'est normal qu'ils défendent l'IA, puisque c'est leur bénéfice, c'est leur gagne-pain futur. Et ça, c'est un gros problème d'ailleurs. Ceux qui parlent des choix techniques sont ceux qui ont des avantages économiques directs à en tirer.
Cédric.
Attends,
on discute là.
Bon, dans les gens que j'ai interrogés, par exemple, il y avait un certain Yves Cochet qu'on peut difficilement taxer de technosolutionniste.
Oui, oui. T'as interrogé aussi
tout un chapitre, pardon.
Ils étaient très minoritaires. Il y avait Philippot aussi qui t'a interrogé.
N'empêche qu'il y a un chapitre sur IA et écologie dont la moitié du chapitre est consacré à tous les impacts négatifs en termes d'électricité, en termes de consommation de ressources.
Bon, mais ceux qui promeuvent l'intelligence artificielle.
Et je pense que c'était la première fois dans un rapport de ce niveau-là qu'il y avait un vrai paragraphe sur l'insoutenabilité du développement de l'IA et du technologique, du numérique, au niveau où elle se poursuit.
Bon, François, alors continue la piste.
Je pense qu'il faut d'abord...
On interdit la publicité.
Il faut d'abord démystifier les discours technoscientifiques, démonter l'économie de la promesse dans laquelle fonctionne la science contemporaine par une intervention politique, par des mesures qui peuvent être... D'abord, interdire la pub, mais ça fait pour faire applaudir, c'est facile un peu comme solution. Deuxième chose, je pense qu'il faut ensuite démanteler les infrastructures et... Donc on a parlé dans la séance précédente très intéressante sur les questions de sobriété. Il y a un moment, il va falloir quand même dire les choses. On peut dire, il faut abandonner les technologies, les dispositifs, les équipements et démonter les infrastructures qui sont les plus prédatrices, les plus dangereuses et les plus climaticides. Bon voilà, et tout le monde le sait, et les écologistes le savent. Et depuis 10 ans, on est rentré dans une logique de technolutte, de lutte sur les infrastructures permanentes. Toutes les ZAD, c'est quoi ? C'est des luttes politiques sur des infrastructures techniques accusées de dégrader le monde, d'accroître les pollutions, etc. Donc il faut encourager et soutenir ces luttes dans une multitude de forme. Depuis, ça dépend après de l'habitude de chacun. Il y en a qui auront saboté, il y en a qui auront manifesté, il y en a qui auront occupé, tout ce que vous voulez. Et ça, il y a un livre intéressant de journaliste qui vient de sortir, qui s'appelle Les Technoluttes, qui tente une sorte de panorama contemporain de ces combats qui font de la technologie un nœud de l'enjeu politique.
Que vous trouverez à la librairie
voilà,
là-bas.
Tout à fait. Et donc, il faut démanteler, déconstruire, abandonner les objets qui sont particulièrement toxiques. Et je suis désolé de le dire, mais le smartphone... Il ne faut pas parler d'un objet en particulier parce que ça, les gens se sentent agressés. Hein. Évidemment, en 10 ans, le smartphone est devenu une sorte de seconde peau, une sorte de seconde nature et un objet dont on ne peut plus se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un droit universel au smartphone. Et c'est l'interface par laquelle on interagit avec les services publics. C'est sidérant. Le smartphone est une catastrophe. Depuis 10 ans, c'est une catastrophe. Le coût environnemental, le coût écologique, le coût énergétique, c'est une catastrophe. Faire croire que les solutions écologiques passeront par la multiplication des interfaces numériques sur le smartphone est aberrant. L'autre jour, avant-hier, je lisais un article aberrant dans la revue The Conversation. C'est le truc de vulgarisation scientifique. Il y avait un article qui disait, pour sauver la biodiversité, installer l'application machin, on aura des données sur tout le vivant. L'article d'après, juste en bas, c'était le coût environnemental du numérique. Et les deux fonctionnaient, et personne ne voyait le problème, quoi. Donc c'est terrifiant. Et troisième point, et je me tais là, il va falloir reconstruire un milieu technique. Donc on démonte la promesse technoscientifique, on démonte matériellement les techniques mortifères et on reconstruit un milieu technique. Parce qu'il n'est pas question d'être technophobe, c'est des conneries ça. Technophobe, c'est un mot qui a été inventé pendant la guerre froide par les Américains pour disqualifier les Russes. En disant le système soviétique est technophobe, il ne va pas permettre de pousser la technologie. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Et donc il faut réinventer un autre milieu technique. Ce nouveau milieu technique, il existe. C'est-à-dire qu'on est des hommes techniques, on a besoin d'interface, on a besoin de savoir, on est tous des hommes scientifiques, on est tous des hommes techniciens, c'est comme ça qu'on interagit avec le monde. Le problème, c'est quelle technique ? Et donc aujourd'hui, il y a plein de milieux. Alors Biwix parle de low-tech, c'est une manière de renouveler le vieux terme de technologie appropriée, technologie conviviale qui avait été portée dans les années 70. Aujourd'hui, on va dire low-tech, bon, chaque génération a besoin de son nouveau langage, mais c'est la même chose. C'est-à-dire des technologies qui soient démocratiques, socialement acceptables et qui détruisent pas la planète. Bon, bah on sait, dans plein de domaines, on sait, c'est ce qui a commencé à être discuté dans la table ronde d'avant sur la sobriété. Sur les transports, il faut arrêter le tout TGV. Sur la bagnole, il faut arrêter la course à la puissance de la bagnole. Bientôt, avec l'électricité, ça va faire 2 tonnes, les machins. Il faut des bagnoles qui sont hybridées à 80 km/h et qui font 500 kg au maximum, qui consomment quasiment rien, qu'on interdit en ville. On permet la mobilité automobile dans les campagnes parce qu'on peut pas faire autrement et les artisans, ils ont bien besoin d'une bagnole pour transporter leurs marchandises. Mais voilà, tu vois, c'est des cons, mais ça, c'est possible. Et ça, il y a besoin d'ingénieurs pour fabriquer une bagnole qui fait 200 kg, qui explose pas trop rapidement. Et on peut dire ça pour tous les sujets, pour la communication, pour se nourrir, pour l'alimentation. C'est la table ronde très intéressante d'hier sur la question agricole, la question de l'élevage. Bon. Donc, d'une certaine manière, on a déjà un peu tout ça.
On détechnologise. Voilà. Alors, bon, une annonce de service, s'il te plaît. Allez. Avant que vous rentriez dans la conversation, on va essayer de faire une femme, un homme. Cédric Villani, tu réponds. Bon. Et après, c'est à vous.
Ici, il y a quelque chose au plan logique que je ne saisis pas vraiment. Dans la première partie, tu nous dis la science est toujours politique, la technologie est toujours politique, il faut la déconstruire. La deuxième partie, tu nous dis il faut la reconstruire, mais en fait, elle est déjà là.
Il faut la construire sur une bonne base politique.
Excuse-moi, ça s'appelle les sciences et les technologies, c'est tout un domaine dans lequel c'est le boulot du pouvoir public d'orienter et de réglementer à certains sujets. Mais prenons un domaine, je fais partie des jeunes à la santé fragile qui seraient morts s'il n'y avait pas eu les antibiotiques et la ventoline quand j'étais gamin. C'est de la recherche scientifique que je sache qu'il a découvert. Ben oui. Ben. Le vélo à assistance électrique sur lequel j'ai fait les 1300 km de ma campagne législative en montant et descendant le plateau de Saclay, le plateau des Ulysses, il a été inventé par des scientifiques et des ingénieurs.
Mais bien sûr.
Par une réaction. Ah bah, c'est de la science.
Justement, je t'ai dit qu'il ne fallait pas parler de la science et de la technique en général, qu'il fallait ouvrir la boîte noire de la technique. Il faut ouvrir la boîte noire de la technique en considérant qu'elle est politique.
Mais c'est pas une boîte noire, c'est tout transparent.
Ah non, c'est pas transparent du tout. C'est refermé tous les côtés.
Ce sont des choses ouvertes. Et d'ailleurs.
Ah non, c'est pas ouvert.
Et d'ailleurs, certains des pires fous et des pires salopards en la matière, ils ouvrent tous leurs brevets et tout pour attirer la communauté. Je pense à Elon Musk qui à un moment a mis tout Tesla en mode open source pour attirer des capitaux. C'est pas pour autant que c'est un projet de salut. Tesla, c'est parmi ce qui se fait de pire pour l'avenir du monde. Alors. Un autre truc sur lequel je voudrais insister, certains des grands projets qui sont à l'œuvre, et certains des plus grands, des plus pharaoniques peut-être projets scientifiques, je pense au CERN dans lequel on explore les secrets de la matière, au plus dans lequel on découvre le boson de Higgs et tout ça. Je pense au laboratoire dans lequel on a conçu le James Webb Science Telescope, etc., Space Telescope, pardon, et tout ça, sont des projets qui, en soi, ont un intérêt intrinsèque pour l'humanité. Pas de finalité qui est annoncée. C'est pas d'eux que vient le problème. Sinon, celui de comprendre le cosmos, les planètes, la formation du système solaire et de l'univers pour certains d'entre eux, les exoplanètes, tout ça, pour la majorité des scientifiques qui bossent là-dedans, c'est comme une fin en soi. Considérant que la connaissance du monde dans lequel on vit, aussi bien la structure microscopique de la matière que la structure macroscopique de l'univers, que les liens entre les êtres vivants, ça fait partie des buts les plus nobles de l'humanité. Et, excusez-moi, René Dumont, c'était un scientifique. Une Rachel Carson, son ouvrage Printemps silencieux, c'est un ouvrage qui est bourré de science.
Moi aussi, je suis scientifique.
Alors, une question là, monsieur. Après, je voudrais, mais je pense que ça serait bien qu'on fasse un homme, une femme. Donc, monsieur le maire, je crois, ouais, là, le monsieur barbu. Est-ce qu'il y a une femme? Je ne vois pas très bien. Et après, on refera un homme. Alors, allez-y. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Et après, allez-y, après là et après là-haut.
Très intéressant, hein, bravo. Donc j'ai été à cette place en 1975, puis ensuite j'ai passé 37 ans de l'autre côté du bureau. Donc je pense connaître à peu près la technique. ce qui m'a autorisé tout récemment à déposer un brevet qui permettrait d'obtenir du chauffage gratuit pour tous les bâtiments français. Alors je vous explique rapidement. C'était juste entre l'entre-deux-tours où j'ai assisté à un débat télévisé et je me suis dit, de toute façon, tu votes pour l'une ou tu votes pour l'autre, tu vas avoir du nucléaire. Donc j'ai gratté un petit peu le nucléaire pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et puis je me suis rendu compte que c'était une énergie décarbonée, super intéressante, avec une densité énergétique très importante. On transporte très peu de matière pour avoir beaucoup d'énergie, vraiment intéressante. Puis après, j'ai regardé un peu mieux, puis je me suis rendu compte que, en fait, quand on rentrait 3 kWh d'énergie nucléaire dans une centrale, on ressortait 1 kWh d'énergie électrique. Ça, c'est la faute à M. Carnot, hein, un scientifique. Voilà. Et que, en fait, quand on additionnait ces kilowattheures, on obtenait des terawattheures, des centaines de terawattheures qui étaient perdues sous forme de chaleur, qui parfois réchauffaient quelques crocodiles. Bon, mais rarement valorisées. Oui, je termine pour dire que ces centaines de terawattheures sont supérieures aux centaines de terawattheures nécessaires pour chauffer l'ensemble des bâtiments français. D'où mon dépôt de brevet, qui était de dire, je ne vais pas construire des EPR, je ne vais pas construire des SMR, mais je vais construire la micro-centrale nucléaire domestique, celle qu'on va placer dans l'appartement, qui va créer l'électricité pour l'appartement et qui, grâce à M. Carnot, va chauffer l'appartement. Le petit inconvénient que j'ai avec ce discours scientifique, c'est que quand j'en parle à des industriels ou à d'autres, personne n'y adhère. Quand j'en parle à mes voisins, ils disent « c'est bien ton truc, mais je ne vais pas l'acheter ». Et en plus, je ne veux pas que mon voisin en ait. Et là, je ne comprends plus. Si bien que, excusez-moi, je vais construire ma maison en paille et en bois.
Alors, le micro, merci beaucoup. C'est Étienne qui galope au long des escaliers, allez-y. Et après, ça sera là-haut. Et après, on fera un retour avec nos amis. Alors, là-haut, et après une femme. Vas-y.
Alors, moi, c'était de l'ordre de la remarque, mais vous avez parlé de la non-neutralité de la technique, donc ça, c'était déjà bien. Je m'interroge sur deux choses. C'est l'écologie du numérique en soi, parce qu'on parle intelligence artificielle, effectivement, mais vous l'avez dit aussi que vous aviez mis une vigilance là-dessus. Moi, ce qui m'interroge sur l'intelligence artificielle, notamment, c'est est-ce que ça ne va pas nous mettre à nouveau dans une position de perte de maîtrise des savoirs ? C'est-à-dire que, je le vois avec le smartphone, on a arrêté de connaître les numéros de téléphone des gens qui nous sont proches parce qu'on les a mis dans un répertoire. Et puis, question du coup plutôt à François, c'est est-ce que on serait dans du coup la nécessité d'un imaginaire, d'un parlement des sciences et des techniques qui soit démocratique ?
Et alors là-haut, je crois, le monsieur qui lève les deux bras ensemble sur la gauche, maintenant plus qu'un bras, plus du tout de bras d'ailleurs. Étienne, j'espère que tu le trouveras quand même. Et après, retour au feu de cheminée.
Oui, merci pour ce débat très intéressant. La question que je me posais par rapport au sujet, c'est vis-à-vis des technologies dont on parle pour régler le climat. Alors moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Vous connaissez sûrement mieux que moi, mais ces idées de balancer du soufre dans l'atmosphère pour diminuer l'impact du réchauffement climatique, ce genre d'idées d'apprentis sorciers. Mais quand je vois la Chine, où j'ai lu là dernièrement qu'ils avaient peur pour la suffisance alimentaire en Chine, étant donné qu'avec le réchauffement climatique, ils ont de moins en moins de flotte, quand on voit en Inde, qu'ils ont déjà des étés des fois à 50 degrés, donc ça fait quand même 2,5 milliards de personnes qui sont concernées immédiatement. J'ai peur que ce que je considère moi comme une fausse solution et comme un énorme risque soit utilisé au bout d'un moment et accepté par des milliards de personnes parce qu'ils se disent en même temps on n'a plus d'autres choix tellement on n'a pas fait les choix qui s'imposaient auparavant. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait par exemple une nation comme une puissance spatiale comme la Chine qui se dise ben allez, moi je balance le soufre et tant pis pour les autres et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est une des inquiétudes que j'ai. Merci.
Merci. Quatre questions fortes. Le nucléaire et des solutions beaucoup plus simples. L'écologie du numérique, un parlement de choix des sciences et techniques et la géo-ingénierie comme remède technique au moment où il y aurait plus d'autres solutions. Alors Cédric.
Je vais commencer. Alors d'abord la diffusion des microcentrales nucléaires, même en admettant que toutes sortes d'obstacles techniques seraient surmontés pour qu'il y ait quelque chose qui soit garanti, sans faille, et ainsi de suite, je ne crois pas une seconde que c'est quelque chose qui sera adopté partout. Parce que le nucléaire vient avec un tel imaginaire de destruction que le mettre juste à côté de soi, je ne crois juste pas. Je pense que le truc pourrait juste pas prendre. Alors maintenant, comme on sait bien, tous les problèmes du nucléaire de ces dernières années, les problèmes les plus sérieux rapportés par l'industrie encore et encore, sont des problèmes qui ne sont pas de nature technologique mais industrielle, et ce sont des problèmes qui viennent des ressources humaines. Et je vous en parle avec la légitimité d'avoir été pendant des années président de l'organisation qui auditionne tout le nucléaire civil en France au Parlement. Et toujours, on a un problème de compétences, on a la technologie qui n'a pas été là mise en œuvre de façon industrielle à tel ou tel niveau. Alors, imaginez le défi industriel que ça représenterait. Je ne suis pas optimiste par rapport à la solution que vous indiquez. On pourra continuer la conversation tout à l'heure, mais disons que juste, moi, je ne suis pas optimiste.
C'était une blague, je crois. C'était une blague, il n'était pas sérieux non plus.
Ah, alors c'était peut-être une blague. Vous savez, on entend tellement de tout. Mais alors tellement...
En tout cas, c'était une réponse, elle était claire.
Et on s'habitue à tout prendre au sérieux.
Allez, chut.
Sur l'écologie du numérique, on a une trajectoire qui n'est pas soutenable. Alors après, on peut dire que c'est une question de brider, de mettre un seuil. D'ailleurs, on parlait de Ivan Illich, il nous dit en gros, toute nouvelle technologie qui au début rend des services, au bout d'un certain stade de développement, elle finit par se retourner contre nous. Avec plein d'exemples, y compris le système scolaire, y compris le système hospitalier, etc., etc. On peut dire ça aussi, qu'à un moment, il faut juste brider, limiter par exemple la surface physique qui est occupée par les data centers, par le politique, mais on ne sortira pas de là. Il ne faut pas croire que la technologie sans contrôle politique résoudra les choses, pas plus qu'il ne faut croire que les forces du marché résoudront les choses, même si on rajoute telle ou telle taxe et incitation. À la fin des fins, il y a de la réglementation, qui sans quoi vous ne pourriez rien faire. Sur le fait que l'IA apporte de la perte de maîtrise des savoirs, toute nouvelle technologie l'apporte. Pour rappel, Socrate déjà, il y a quoi, 2500 ans ou quelque chose comme ça, argumentait, en tout cas c'est ce que rapporte Platon, que l'écriture allait nous faire perdre de la mémoire, parce qu'on ne retient plus les textes, allait mener à des incompréhensions entre les humains, parce qu'il y a des choses, des textes qui ne doivent pas se retrouver sur certains publics qui s'y retrouveront fatalement. Et puis, peut-être le plus grave, nous dispenserait d'apprendre les choses par nous-mêmes. Trois critiques qui étaient fondées, qui n'ont pas empêché l'écriture de se répandre comme quelque chose d'absolument inarrêtable, et qui ont mené sans aucun doute à ce qui a été fait. On apprend les choses plus dans les livres que dans notre expérience. Pour la grande majorité d'entre nous, on n'a pas du tout la même mémoire qu'avaient les Aèdes ou les hommes politiques de l'époque d'Homère. Et les sujets d'incompréhension liés à l'écrit, il y en a sans arrêt. Toutes choses qui ont été amplifiées avec le numérique. Je ne parle pas forcément d'IA, mais de numérique. Avec des choses phénoménales aussi. Pensez que quand il y a eu l'attentat en 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, avec un carnage qui a duré un quart d'heure peut-être, contre une mosquée ou je ne sais plus quoi, la vidéo du carnage a été mise en ligne à peu près 1 million de fois ce jour-là sur Facebook. 1 million de fois pour choquer, répandre la haine, tout ce que vous voulez. 1 million de fois, elle a été retirée par les services de Facebook. quasiment en temps réel. Au passage, impossible de faire ça sans intelligence artificielle. Si vous demandez à la plateforme de gérer un système de plateforme sans avoir des outils de détection automatique des contenus, vous allez juste avoir le chaos encore plus complet que maintenant. Et bien sûr, le politique réglemente en disant il est interdit de faire ceci ou cela. N'empêche que si vous n'avez pas la technologie qui vous permet de le repérer et de faire la police, ça ne sert à rien. Et ici, vous voyez combien il est important aussi, s'il y a une certaine technologie qui est à disposition de certains, que la puissance qui réglemente, que l'État ait la maîtrise, soit directe, soit indirecte avec quelqu'un de confiance, de technologies qui peuvent le contrer. Énorme, énorme problème en général. Je voudrais insister aussi sur l'imprévisibilité du développement des outils. On est là en train de parler. A posteriori, on pourrait dire « Ouais, mais l'intelligence artificielle, ça se prépare depuis des années, c'est des grands projets de recherche. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand je faisais mes études de mathématicien, mes études supérieures de mathématiques, l'intelligence artificielle, c'était un sujet qui n'était plus à la mode, dont on moquait l'inefficacité et le caractère abstrait. C'était des doux rêveurs. Et tout particulièrement les réseaux de neurones. Alors les réseaux de neurones, jusque dans les années 2010, on disait ça ne marche pas, on l'a essayé, tant et plus. Les meilleurs experts du monde vous disaient ça. 2012 ou 2013, n'empêche 2012-2013, le trio fait de Yoshua Benjo, Yann LeCun et Geoff Hinton, avec des réseaux de neurones, fait mieux que toutes les autres équipes du monde pour un problème de reconnaissance automatique d'image. Avec applications qui viennent à la médecine et tout ça. Alors, quelques années plus tard, c'est les réseaux de neurones qui se retrouvent en première page des magazines hype en disant ouais, les réseaux de neurones vont sauver le monde et ainsi de suite. C'est passé en quelques années du statut de c'est une technologie à laquelle personne ne croit, sauf quelques entêtés dans leur coin, et puis on va donner quelques centimes ici et là. Ah, oh là là, c'est la technologie qui va sauver le monde, vite que les milliards coulent à flot et les pays de rivaliser en disant moi je mets plus de milliards que toi sur la technologie. Alors, se mettre à planifier ou à décider, alors, ça lance le débat et la question sur le Parlement de la science. Si on avait parlementé et pris la décision démocratique sur est-ce qu'il faut constituer les réseaux de neurones ou pas, continuer ou pas, la décision globale aurait été non, on ne les finance pas. En tout cas, pas dans notre système public. Et on pourrait dire, on s'en porterait bien sans, on pourrait dire ça. Maintenant, c'est des réseaux de neurones qui vous font le diagnostic les plus performants en matière de santé. C'est les réseaux de neurones qui, dans le domaine du Go, ont réussi à faire mieux que tous les humains dans le Go et au passage à montrer combien au jeu de Go, on était bien plus mauvais que ce que nous croyons dans notre égocentrique fierté d'humain. Il y a certains indicateurs là-dessus qui sont juste considérables. Alors, vous pouvez dire le Go, ça ne sert à rien non plus, mais si vous commencez à rejeter tout ce qui est fait pour l'amour de l'art et pour l'amour de la connaissance, on ne va pas aller bien loin et on ne s'entendra pas.
François, et on n'oubliera pas la géo-ingénierie à la fin.
La géo-ingénierie, il ne faut pas la faire.
Non, c'est sûr. Non, mais je m'excuse, j'espère que je n'ai pas eu l'impression de m'énerver, parce que des fois, je m'enflamme.
Vous êtes tous les deux très calmes, portés par votre sujet, ça c'est clair, mais non, mais tout va bien.
Bah, alors là, il faut parler de 5 sujets gigantesques en 4 minutes, c'est ça ? Allez, 6. Bon, je mettrai dans le même pot, qu'est-ce que je voulais dire ? Le CERN, je vais revenir quand même rebondir. Le CERN, c'est l'amour du savoir, comprendre le monde, comprendre la matière, comprendre les fondements. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous porte. Pourquoi ? Mais le CERN, c'est aussi un projet techno-scientifique gigantesque, avec des financements internationaux gigantesques, qui ont comme horizon, et qui sont financés à cette hauteur, non pas pour accroître notre compréhension de l'univers, mais parce que les acteurs politiques ont comme horizon d'en avoir un retour en inventant l'énergie infinie. C'est cette espèce de promesse, d'horizon, qui justifie qu'il y ait des financements aussi considérables, c'est pas pour faire plaisir à quelques physiciens, pour satisfaire leur quête de savoir. C'est-à-dire que c'est des projets qui ont nécessité des négociations diplomatiques gigantesques pendant 20 ans avec différents pays, pour aboutir à cette installation considérable. Et donc, si tu veux, vas-y. Mais moi, ça me paraît évident. Donc, et c'est pareil avec la conquête spatiale, c'est pas juste, on nous sort ça dans les médias en permanence, ils ont relancé depuis 2 ans la conquête spatiale, mais c'est terrifiant.
Ne t'énerve pas,
ils ont relancé. Non, mais
Cédric, on a le message, il répond, mais rapidement, hein, Cédric. Hein.
Je respecte fully disagree. Quand le CERN découvre le boson de Higgs, c'est un événement mondial pour les citoyens. Ça fait les gros titres des journaux. Ça intrigue tellement les gens que je me souviens d'avoir reçu cet email d'une quidam me disant « Je comprends pas, tout le monde autour de moi parle du besoin de X et je ne sais pas ce que c'est. » J'étais là, besoin de X. Ah oui, d'accord. Ok, le besoin de X, ça fascine. Quand on voit les images qui étaient données par le projet Planck du fond de l'univers, ça fascine le monde entier. Les spéculations pour savoir s'il y a de l'eau sur tel ou tel satellite, c'est quelque chose qui répond à un besoin de connaissance qui est congénital à l'ensemble de la société. Et je peux me tromper, mais... Sauf quoi ?
Elle dit oui.
Elle dit oui. Bon. Et quand ça m'arrive de faire des confs pour parler d'histoire des sciences et techniques, je pense que le public, dans sa grande majorité, ne vient pas là pour trouver la solution pour gagner de l'argent. Il vient pour en savoir plus sur l'histoire des idées.
Ok.
Très bien.
On sent que là, il y a quand même un truc. On n'arrivera pas à résoudre le différent en deux minutes.
Pareil, sûrement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je ne vais pas parler du nucléaire ni de la géo-ingénierie.
L'exploration spatiale, ça suffisait à bien t'énerver.
Non, mais on sait déjà. Là, on est en plein, évidemment. Bon, le nucléaire, c'est particulier à la situation française. Je ne lance pas dans le nucléaire parce qu'on n'a pas le temps. Et monsieur a fait une blague. Elle était excellente. Elle a permis de montrer par une blague l'absurdité de la situation et l'absurdité que monsieur Macron a annoncé quand même publiquement dans les médias qu'il allait inventer des micro-centrales nucléaires. Ben, je veux dire, ça faisait partie des promesses technoscientifiques du président Macron. Donc c'est du délire. Bon. La géo-ingénierie, c'est quoi ? Bah, c'est l'un des multiples projets technosolutionnistes formulés notamment par les chimistes de l'atmosphère. Et pourquoi ces projets sont portés ? C'est ça qui est intéressant aussi. Pourquoi ils ont une visibilité ? Parce qu'on est coincé dans un nœud de complexité. Ça fait deux jours qu'on discute et la conclusion, c'est qu'on est pris dans un nœud de complexité terrible où les facteurs sociaux, les facteurs politiques, les enjeux matériels sont tellement... On arrive à un tel mur de situation indécidable qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, qu'est-ce que c'est le technosolutionnisme ? C'est des acteurs qui cherchent des financements pour développer leur truc. Et de l'autre côté, vous avez des pouvoirs publics qui sont démunis. Et donc, le miracle du technosolutionnisme, c'est donner des prises à des acteurs politiques pour donner l'impression qu'ils agissent dans le réel. Ils agissent dans le réel, en plus, sans prendre les mesures dont tout le monde sait qu'elles sont indispensables, mais qu'elles seront parfaitement impopulaires. Et dans un système de démocratie libérale tel qu'on le connaît, qui repose sur l'opinion médiatique, machin, à courte vue, vous pouvez pas prendre des décisions impopulaires et vous pouvez pas construire un consensus parce qu'on n'a pas la durée, on n'a pas les outils. Ce qui fait que les politiques, ils ont quoi ? Ben, y a un gars qui vient avec sa start-up en leur disant « je vais vous vendre ça, si vous me mettez un milliard, je vais vous résoudre tel ou tel problème ». Eh ben, le gouvernement, c'est plus facile de sortir un milliard pour imaginer que le gars il va résoudre le problème que se coltiner vraiment le problème politique, c'est-à-dire réguler, organiser. Donc, ils sont même pas capables d'interdire les jets privés. Je veux dire, sur cette base-là, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est la minimum de trucs de décence. On découvre aujourd'hui. Non mais vous avez des élus qui découvrent aujourd'hui qu'il faut éteindre la lumière la nuit, putain. C'est quand même. Non mais vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation. Les gens ils prennent une mesure écolo parce qu'ils vont éteindre la lumière entre 11h et 5h du matin. Et dire qu'on est tellement loin là, on est tellement loin des enjeux et de la situation matérielle qu'a évoqué Fressoz hier, quoi, que la situation est compliquée. Donc quand j'entends la conquête spatiale, mais c'est une opération marketing avec derrière des grandes multinationales qui sont en train de se mettre sur le créneau, parce qu'en plus il y a une privatisation du ciel actuellement. Donc avant c'était les États qui étaient dans la compétition. La conquête spatiale, c'est une compétition internationale dans la guerre froide pour celui qui aura les plus grosses, quoi. Et aujourd'hui, vous avez, évidemment, et ça satisfait les scientifiques, parce qu'évidemment, les scientifiques, ils ont besoin de connaître, et évidemment, tout le monde, on a tous envie de savoir le secret de l'univers, envie de savoir s'il y a... Alors peut-être qu'on aura une note, on n'a rien à faire du tout, mais moi j'ai lu Hubert Reeves quand j'étais gamin. Gamin, et ça m'a fasciné, c'est vrai, putain, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ? Bon, très bien, mais en fait, ça, c'est une illusion publicitaire et médiatique pour faire passer la pilule du reste, en fait. Et ça, et voilà, je le crois vraiment.
Alors, pour le coup,
on n'en doute pas.
Je ne peux pas. Sur la conquête spatiale, je ne peux pas laisser dire cela sans nuance. Les sociétés d'astronomie mondiales et les astronomes français, ceux qui s'occupent de travailler dans le James Webb Space Telescope et autres, sont les premiers à dénoncer Elon Musk et la pollution insupportable lancée par SpaceX. Ils trouvent ça insupportable, c'est même les premiers à alerter. Nous dire c'est de la folie furieuse mettre ces centaines ou ces milliers de satellites en orbite qui viennent privatiser le ciel. écoutez Aurélien Barraud, c'est quelqu'un qui va les dénoncer d'une façon extraordinaire, et pourtant c'est quelqu'un qui a grandi dans l'astrophysique et l'amour de la conquête spatiale aussi. On ne peut pas les mettre tous dans le même panier. Maintenant, sur le... Maintenant, sur la question du lessivage politique par la technique, ça, c'est totalement vrai. Et tellement totalement vrai qu'on devrait lui donner un nom particulier. Moi, j'aime bien tech-washing. Alors, on va dire qu'on a trop de noms pour dire un peu tout. Mais ça revient tellement souvent qu'il faut pouvoir le désigner. Ce n'est pas juste un greenwashing, c'est le tech-washing. Exemple, celui sur l'agriculture. Et effectivement, quand tu dis... Le gouvernement préfère financer la start-up que prendre les mesures qui s'imposent d'interdire le pesticide. Ben oui, c'est vrai. Le programme présidentiel, la dernière élection, c'était édition génomique, robotique et intelligence artificielle. Alors attention à ne pas pour autant tout jeter là-dedans. Discutez avec les gens de la ferme digitale, vous les trouvez au salon de l'agriculture. Paulin Pascot, qui coordonne le réseau, vous dira, ils ont les stats. Avec le meilleur tiers, le premier tiers d'agriculteurs qui travaillent avec eux, dans les bons cas, ça fait gagner quelque chose comme 10 jours de vacances par an, pas négligeable dans un métier qui crève de manque de vacances, et quelque chose comme un 13e mois. C'est pas ça qui va sauver l'agriculture, mais ce qui va sauver l'agriculture, c'est passer à l'agroécologie, enlever les intrants, aussi bien les engrais fossiles que les pesticides, tout ça. Mais pour autant, on peut aussi avoir une amélioration qui va sur l'AS. L'un ne dispense pas de l'autre. C'est ça le problème. En revanche, le problème, effectivement, je termine juste là, où tu as parfaitement raison, c'est le fait que le gouvernement utilise ça pour détourner l'attention. Et en ça, il y a un effet nuisible de la technique, en ce qu'il est utilisé, instrumentalisé, pour dire on s'occupe du problème. Le remède par rapport à ça, qui fait partie du bagage scientifique, il s'appelle ordre de grandeur. Et pointer en disant, non, le machin que vous évoquez, là, ça fera peut-être gagner 5%, mais on a besoin de gagner 60%. Ça ne résoudra pas. Le plus bel exemple que j'ai vu passer ces derniers temps, c'était l'été dernier, quand toutes les grandes majors de l'aviation ont fait de grandes conférences de presse pour annoncer qu'ils investissaient dans la nouvelle centrale de stockage carbone dans le Texas, qui va ouvrir dans 2 ans ou quelque chose comme ça. Et ils ont dit, on a réservé, je ne sais plus combien de millions de tonnes, on a réservé telle quantité de tonnes de charbon, de tonnes de carbone dans la prochaine centrale. À grand renfort de communication, message implicite, on est conscient qu'on doit compenser, on est conscient qu'on doit se racheter, on a investi dans cette technique de stockage qui va faire partie de la solution. Alors après, vous prenez votre calculatrice, vous regardez les chiffres des uns, etc., et vous constatez que ce qu'ils proposent, c'est en gros 1/1000 de l'empreinte carbone annuelle du secteur. Alors, vous imaginez la situation. Il faut trouver des analogies pour balayer ça. Bonne analogie pour moi. Vous imaginez la situation. Vous imaginez la situation où vous avez votre grand-fils qui est un tanguy qui vit à vos crochets de maman. Il dépense 10 000 euros par mois en restaurant ou qui sait quoi. Et vous lui dites, mais arrête, j'ai pas les moyens, on court à la catastrophe, c'est la ruine de la famille. Mais il peut pas se maîtriser, il dépense encore plus. Et un jour, il vous dit, maman, t'inquiète pas. J'ai fait une promesse d'ouverture de compte dans cette super banque nouvelle d'un nouveau type qui va ouvrir dans 2 ans. Ils sont super top niveau. Et j'ai promis de réserver 10 euros par mois sur leur compte. Vous lui dites quoi? Mais tu te fous de ma gueule? C'est ça qu'on aurait dû dire en cœur, tous, toute la société, aux grandes compagnies d'aviation qui nous disent on va réserver du carbone en stocké dans le sol. Sauf que le message, ça a été un message sans filtre et sans le contrôle de l'ordre de grandeur scientifique qui doit toujours prévaloir.
Merci. Écoutez, on... On est frustré. Enfin, moi, je suis frustré. Je sais pas ce qu'il en est de vous. J'aurais bien continué une demi-heure. Allez. Non, mais il faut rentrer parce qu'il y a aussi, il faut qu'on déserte la salle parce qu'il y a une session sur la désertion. Alors, si tu veux, hein, la rébellion, on va pas aller contre l'ordre. Juste un mot. Allez, juste pour mais un petit mot. Alors, est-ce que finalement, le salut écologique peut venir par la science et la technique? Je sais bien que non, d'après alors... le débat, mais allez, juste mes deux phrases et Cédric, finirez.
Je dis juste un mot sur le, c'est important sur le, est-ce qu'on peut faire des parlements pour discuter des choix techniques? Cédric Villani a été, je crois que tu as été directeur ou président de l'Office parlementaire des choix technologiques. C'est quand même une institution formidable qui a été inventée par les socialistes en 1980 pour donner des gages aux écolos lorsqu'il a abandonné la décision qu'il devait prendre d'abandonner le nucléaire. Et donc, à la place, ils ont donné comme gage aux écolos de créer une office d'évaluation des choix technoscientifiques pour dire qu'on va faire rentrer les technologies dans la démocratie. Et depuis 25 ans, cette institution, elle a essentiellement été une institution qui a fait passer toutes les choix techniques, qui rend des rapports quand même très positifs sur les dernières conneries. Par contre, je cite juste un truc. En 1848, vous avez une pétition d'ouvriers alsaciens qui écrit au Parlement pour leur demander qu'on crée un Parlement pour délibérer sur les choix techniques en disant les techniques qui détruisent le travail, qui affaiblissent les classes populaires doivent être mises au musée et non utilisées. Et on devrait créer un Parlement européen pour répondre aux économistes qui disent on ne peut pas réguler sur les choix techniques parce que dès que vous régulez, vous avez la compétition internationale, donc d'autres les feront et donc on peut rien faire. En 48, des ouvriers vous disaient il faut un Parlement européen pour délibérer sur les choix techniques et pour décider d'abandonner des technologies dont on considérait qu'elles sont funestes dans le contexte dans lequel on est pour des raisons sociales, écologiques. Donc je m'inspire de ces ouvriers de 1848.
Allez, Cédric. Cédric, un court mot de la fin.
Alors, c'est mon boulot d'ancien président que de défendre l'institution quand elle est attaquée. De la même façon que quand un sénateur de l'OPEX s'est avéré de raconter dans la presse que le glyphosate était sans aucun danger et que ça a fait le bandeau de une de BFM TV et qu'on commençait à se faire taxer partout de fous et technosolutionnistes, ça a été mon boulot de rappeler qu'il s'exprimait en son nom, que le rapport ne disait rien de tel et que les trois autres rapporteurs se désolidarisaient de ses propos. Mais, jugez sur pièce, lisez notre note sur l'effondrement des insectes et de la biodiversité. Et les régulations et les propositions de régulation qui sont dans l'OPEXT et qui sont inspirées directement par la consultation des scientifiques du CNRS, de l'INRAE. Et d'ailleurs, si un dixième de ça a été appliqué par le gouvernement dans les années qui viennent, ça serait déjà un progrès considérable. Et c'est une note qui dit sans embâge que agriculture intensive, exploitation des sols, pesticides et tout ça sont un poison qui menace d'un risque létal l'ensemble de la biodiversité. Ou alors, lisez notre rapport sur l'édition génomique, obtenu par consensus, et c'est un des sujets sur lequel je suis fier d'avoir obtenu un texte de consensus, entre la sénatrice LR Catherine Procaccia et le député LFI Loïc Prud'homme. Tellement sur des positions antagonistes qu'il ne voulait pas rédiger le rapport de conclusion, et sur lequel on a fini par, d'abord, trouver le rapport, négocier phrase à phrase qui exposait la situation passée, actuelle et potentiellement future sur édition génomique et les recommandations de l'OPEX avec un seul sujet de dissensus total, absolu, entre les deux rapporteurs. Je ne sais pas si vous devinerez quel était le sujet de la plus grande irréconciliabilité sur l'édition génomique des variétés de plantes. Étiquetage, bien sûr. Et en tout cas, une fois qu'on a fait ce boulot à l'OPEXT, qui ne prend jamais de décision parce que ce n'est pas le boulot du scientifique que de décider, l'OPEXT instruit le dossier et passe la balle aux politiques. C'est toujours le politique qui décide. Chaque fois qu'un politique vous dit « j'ai reçu l'instruction du scientifique de faire ci ou ça », c'est juste de la lâcheté de ne pas réglementer ou d'assumer une décision qui est toujours politique.
Merci à tous les deux, merci à tout le monde.